Vous écoutez On lit pour vous.
Les meilleurs endroits au Québec où vivre sa retraite. Un texte de Sylvie Lemieux, paru le 31 juillet 2026 dans Bel Âge. Un bon choix de milieu de vie peut tout changer à la retraite. Moins de stress, plus d'autonomie, un budget sous contrôle. Tour d'horizon des critères qui comptent vraiment et des endroits dans la belle province qui se démarquent. Changer d'environnement, c'est aussi changer de rythme, de repères et de priorités. Le coût du logement, l'accès aux soins, le transport actif ou collectif, la proximité des services et les possibilités de continuer à mener une vie active influencent directement le confort au quotidien. Autant d'éléments concrets qui orientent ce choix déterminant. Quand Michel Lamarche et son conjoint Jean-Marc ont envisagé la retraite, une idée s'est rapidement imposée. Nous voulions quitter Montréal pour un endroit plus calme où la nature serait accessible au quotidien, raconte-t-elle. Le couple cherchait un lieu où la voiture n'est pas indispensable pour faire l'épicerie ou aller au restaurant. La proximité de leur fille, demeurée dans la métropole, figurait aussi parmi les critères. Ils ont visité plusieurs municipalités en Estrie, exploré les quartiers et tenté d'imaginer leur routine. Leur choix s'est finalement arrêté sur Magog. L'ambiance y est moins stressante, les gens sont accueillants et la municipalité semble soucieuse de consulter la population, dit Michel. Certains compromis demeurent toutefois, notamment pour l'accès aux soins spécialisés qui nécessitent des déplacements à Sherbrooke. Ce témoignage montre bien que le choix d'un lieu de retraite repose sur un équilibre entre préférences personnelles et réalités concrètes. À quoi il faut penser avant de déménager? Voici les principaux facteurs à considérer pour faire son choix et des exemples de villes qui proposent des initiatives intéressantes. Logement. Trouver la bonne formule. À la retraite, les besoins en matière de logement varient beaucoup. Certaines personnes souhaitent demeurer propriétaires, tandis que d'autres privilégient la copropriété ou la location. Entre la maison unifamiliale et le CHSLD, il existe toute une gamme de solutions intermédiaires, rappelle Sébastien Laure, professeur titulaire à l'Université de Montréal et président du Réseau d'études internationales sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socio-économique. Pour Maude Emmanuelle Labesse, conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, la question ne se limite pas aux finances. L'accessibilité universelle et la proximité des services sont des critères clés, souligne-t-elle. Ces facteurs prennent d'autant plus d'importance avec l'évolution des besoins. C'est important d'avoir une offre locative adaptée à des revenus fixes, recommande la conseillère scientifique. Des initiatives gagnantes. Dans plusieurs régions, comme Charlevoix, l'Estrie, le Bas-Saint-Laurent, des projets de logements abordables sont en développement afin de permettre aux résidents de demeurer dans leur milieu. Certaines municipalités ont mis en place des approches plus structurantes. Par exemple, Victoriaville a adopté un règlement qui permet d'aménager des unités d'habitation accessoires sous forme d'agrandissement de la maison ou de logements indépendants sur le terrain afin que les personnes puissent loger près de leur famille. Financer un déménagement à la retraite. Pour Pascal Larivière, planificateur financier chez IG Gestion privée de patrimoine, un déménagement à la retraite dépasse largement le simple choix d'une propriété. C'est un projet de vie qui a des impacts à long terme sur l'ensemble de la planification financière. C'est pourquoi un accompagnement professionnel est utile. On cherche à comprendre ce que les gens veulent faire concrètement, puis on chiffre les options, explique le planificateur. L'objectif est de vérifier la cohérence entre le projet et les moyens financiers disponibles. Un déménagement peut entraîner une baisse ou une hausse des coûts de logement. Il cite l'exemple d'un ménage qui vend une propriété urbaine à 1 million de dollars pour en acheter une à 750 000 dollars en région, libérant ainsi un capital pouvant être investi. À l'inverse, une résidence située au bord de l'eau ou dans un secteur prisé peut faire grimper la facture à 1,2 million ou 1,5 million de dollars avec des coûts récurrents plus élevés, taxes, entretien, énergie et assurance. La location est aussi une option à considérer. Elle peut réduire les obligations liées à l'entretien et offrir plus de flexibilité, notamment pour les personnes qui souhaitent voyager. Pascal Larivière recommande également de réfléchir au moment de la transition. Contracter une hypothèque à la retraite peut fragiliser l'équilibre financier. À l'inverse, amorcer le projet avant de quitter le marché du travail, comme l'ont fait Michel et Jean-Marc, qui ont profité du télétravail pendant quelques années, permet une adaptation progressive et réduit les risques. Il est enfin essentiel d'intégrer au budget l'évolution possible des dépenses de santé, publiques ou privées, avec l'avancée en âge. Bien-être mental et social pour briser l'isolement. Au Québec, le sentiment de solitude touche une proportion non négligeable des personnes âgées. En 2022, 14 % des gens de 65 ans et plus disaient se sentir souvent ou toujours seuls, tandis que 26 % éprouvaient ce sentiment à l'occasion, selon Statistique Canada. Ce phénomène s'accentue en vieillissant. Les conséquences sont bien documentées. Faible sentiment d'appartenance à la communauté, déclin de la santé physique et mentale, perte d'autonomie accélérée et augmentation du risque de mortalité. Les occasions de participation sociale deviennent essentielles à la retraite lorsque les réseaux liés au travail s'étiolent ou disparaissent. Et les activités doivent être proches du domicile pour favoriser la participation, insiste Samuel Rémillard-Boilard, professeur à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et chercheur principal de l'équipe MADA Québec. Vous écoutez « Les meilleurs endroits au Québec où vivre sa retraite », un texte de Sylvie Lemieux paru le 31 juillet 2026 dans Bel Âge. Des initiatives gagnantes. Plusieurs villes et MRC proposent des calendriers de conférences et d'activités thématiques destinées aux aînés. Ces rencontres, souvent offertes de jour, abordent des sujets variés : prévention de la fraude, santé, nutrition, planification financière, deuil ou encore transition à la retraite et constituent des occasions de socialiser. Dans Charlevoix, des intervenants se rendent chez des personnes âgées pour discuter, jouer aux cartes, faire une promenade ou simplement briser la solitude du quotidien. Au-delà du soutien ponctuel, ces visites permettent aussi de mieux orienter les gens vers les ressources disponibles et de recréer progressivement un réseau de soutien. À Bromont, plusieurs initiatives misent sur l'implication citoyenne des personnes âgées pour renforcer les liens sociaux. Sur la place publique, un projet de mosaïque collective a mobilisé plus de 400 citoyens, dont un noyau d'aînés bénévoles ayant participé à la conception et l'animation d'ateliers. Réalisée avec l'accompagnement d'une artiste, l'œuvre a pris forme au fil de centaines d'heures de travail et d'échanges. Au-delà du résultat visuel, le projet a surtout permis de créer un lieu de rencontre et de collaboration, contribuant à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. Vie sociale et culturelle, pour rester au cœur de l'action. Pièces de théâtre, spectacles, expositions. Les occasions de consommer de la culture ne nourrissent pas que l'esprit. Elle joue aussi un rôle clé dans le sentiment d'appartenance à son milieu, en plus de contribuer à une meilleure rétention des citoyens âgés dans leur communauté, souligne Isabelle Lisé, directrice générale d'Espace Muni, qui accompagne les municipalités dans la mise en place de politiques pour un milieu de vie sain, actif et solidaire. Une étude de l'Université de Sherbrooke a aussi démontré que la pratique artistique, chant, peinture, théâtre, améliore l'estime de soi et les fonctions cognitives et motrices des participants. Des initiatives gagnantes. À Gatineau, une programmation estivale déployée dans les parcs et espaces publics propose des centaines d'activités gratuites allant des cours de mise en forme douce et de yoga aux ateliers culturels et aux spectacles en plein air. Plusieurs activités sont adaptées aux aînés et offertes à proximité des milieux de vie, ce qui réduit les obstacles à la participation. À Rimouski, des activités comme Creuse-Ciboulot, offerte en bibliothèque, combine jeux de mémoire, discussions et exercices collectifs dans un cadre informel et accessible. Les clubs pour les 50 ans et plus, appuyés par la municipalité, proposent quant à eux une programmation variée, sorties culturelles, activités sportives, rencontres sociales, organisées à l'échelle des quartiers, favorisant la proximité et la régularité des échanges. Nature et plein air, pour les bienfaits physiques et mentaux. Pour de nombreux futurs retraités, l'accès à la nature est déterminant. La marche est l'activité physique la plus pratiquée chez les aînés, rappelle Maud Emmanuel Labesse. La qualité d'un milieu ne se mesure pas seulement à la présence de parcs ou de sentiers, mais à la facilité avec laquelle on peut s'y rendre au quotidien. Il ne suffit pas de construire de belles infrastructures. Il faut qu'elles soient connectées au reste du tissu urbain, que les sentiers soient bien aménagés, souligne la spécialiste. Sébastien Laure insiste sur cette notion de marchabilité souvent sous-estimée. Une ville favorable au vieillissement est celle où il est possible de se déplacer à pied sans obstacle. Trottoirs continus et bien entretenus, traverses sécurisées, mobilier urbain permettant de faire des pauses, commerce accessible à distance raisonnable. Des initiatives gagnantes. Dans Charlevoix, plusieurs groupes de randonnées réunissent des nouveaux arrivants et des résidents de longue date, créant à la fois des occasions de bouger et de tisser des liens. Un programme consacré à la prévention des chutes encourage le maintien des capacités physiques. À Rimouski, des fauteuils roulants adaptés sont offerts en location dans certains parcs pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter des espaces extérieurs. La ville prévoit aussi, dès cet été, l'installation de tapis d'accès sur la plage afin de faciliter les déplacements en fauteuil roulant jusqu'au bord de l'eau. À Bromont, des aménagements comme des jardins communautaires avec parcelles surélevées permettent aux aînés de jardiner plus facilement tout en favorisant l'activité physique et les échanges entre résidents. MADA, des milieux pensés pour mieux vieillir. Plus de 1000 municipalités québécoises adhèrent à la démarche Municipalité amie des aînés, MADA, une approche visant à adapter les milieux de vie aux réalités du vieillissement. L'idée est de regarder la ville avec une lunette aînée, résume Samuel Rémillard-Boilard, professeur à l'Université de Sherbrooke et chercheuse principale de l'équipe MADA Québec. Autrement dit, se demander si les environnements, les services et les activités permettent vraiment aux personnes âgées de rester actives, autonomes et engagés dans leur communauté. La démarche repose sur un principe simple, partir des besoins exprimés par les personnes âgées elles-mêmes. Les municipalités réalisent d'abord un diagnostic, puis mettent en place des actions concrètes, qu'il s'agisse d'améliorer l'accessibilité des lieux publics, de bonifier l'offre d'activités ou de faciliter les déplacements. Les villes les plus heureuses. Le palmarès des villes du bonheur 2025 de la firme Léger donne quelques pistes intéressantes pour orienter un projet de retraite. En tête du classement figurent des municipalités comme Saint-Augustin-de-Desmaures, Mont-Saint-Hilaire et Blainville qui se démarquent par leur qualité de vie, leur environnement et leurs offres de services. Des villes Centres comme Sherbrooke, Trois-Rivières, Lévis et Rimouski combinent accessibilité des services, dynamisme communautaire et proximité avec la nature. Québec se distingue pour son offre culturelle et ses soins de santé, tandis que Magog et Tetford Mines attirent par un coût de la vie plus abordable. Montréal ferme le palmarès malgré ses atouts en matière de services, de soins spécialisés et d'offres culturelles. Une tendance claire. Les villes de taille intermédiaire se hissent au haut du classement, offrant souvent un meilleur équilibre entre tranquillité, services et activités. C'était « Les meilleurs endroits au Québec où vivre sa retraite », un texte de Sylvie Lemieux paru le 31 juillet 2026 dans Bel Âge.
Des milliers de puits de gaz oubliés font des victimes dans le sud-ouest de l'Ontario. Un texte signé Colin Graff du Canada National Observer. Ce texte est publié dans Le Devoir du 28 juillet 2026. En sous-titre, presque à l'insu de tous, des gens meurent lors d'accidents liés au gaz qui s'échappe d'environ 27 000 anciens puits. En juin 2022, Sean Séguin est descendu dans une échelle dans un puits d'eau situé sur sa propriété près de Caledonia, en Ontario. Il voulait tenter de purifier l'eau chargée de soufre qui alimentait l'étang familial. Il n'en est jamais ressorti. Ce père de deux enfants, citation, n'avait aucune chance, selon le géoscientifique Stewart Hamilton, qui a enquêté sur les événements pour le compte de la famille de la victime. Le responsable était le sulfure d'hydrogène, H2S, un gaz extrêmement toxique, reconnaissable à son odeur de pourri. Lorsque M. Hamilton et son équipe ont soulevé le couvercle du puits, la concentration mesurée dans l'air atteignait 120 fois le seuil létal inférieur. Un niveau, citation, sans précédent, fin de citation, dans un puits d'eau en Ontario, selon leur rapport. Aucun puits de gaz à proximité n'est répertorié, mais l'analyse chimique de l'eau du puits mortel porte à croire qu'un ou plusieurs anciens puits de gaz contaminent les eaux souterraines, affirme le document. Les risques ont été jugés si élevés qu'après le décès de M. Hamilton et ses collègues ont demandé au ministère ontarien de l'Environnement de la protection de la nature et des parcs, d'avertir immédiatement les résidents et les entrepreneurs travaillant près de Caledonia, entre Hamilton et le lac Erie, des « risques extrêmes » que présente le H2S pour quiconque utilise de l'eau souterraine dans un espace clos. Citation, « À moins que les résidents de la région touchée soient informés de ce risque tout à fait inhabituel, des accidents semblables pourraient se produire à l'avenir », prévenait le rapport. Mais ces mises en garde ne se sont pas rendues jusqu'à tous. En septembre 2025, James Aaron Brown, 15 ans, est mort après avoir été exposé au H2S dans un réservoir d'eau souterrain d'une ferme située près de Park Hill, au nord-ouest de London, en Ontario. Quelques semaines plus tard, le producteur laitier, propriétaire de la ferme où l'accident s'est produit, a été accusé de négligence criminelle ayant causé la mort. Selon la police, l'adolescent travaillait à la ferme. L'affaire est toujours devant les tribunaux. Après avoir préservé leur intimité pendant 4 ans, l'épouse de Sean Séguin, Summer, et sa sœur, Rachel, rompent maintenant le silence dans l'espoir de prévenir d'autres tragédies. Presque à l'insu de tous, des personnes du sud-ouest de l'Ontario perdent la vie dans des explosions et des accidents causés par des gaz toxiques qui s'échappent depuis enfouis depuis longtemps. Sean Séguin, James Aaron Brown et un couple de retraités morts dans l'explosion de leur chalet qui se trouvait près d'un puits qui fuyait compte vraisemblablement parmi les victimes de certains des 27 000 anciens puits de gaz qui parsèment le sous-sol de cette région. Plusieurs de ces puits orphelins remontent à plus d'un siècle. La province fait porter la responsabilité aux particuliers. Peu après la mort de son mari, Sommer a reçu des appels d'un plombier et d'un entrepreneur de la région qui s'inquiétaient des risques liés au gaz dans le cadre de leur travail. Tout en composant avec son deuil, elle s'est ainsi retrouvée à craindre également pour la sécurité de ses voisins. Citation : « Je m'inquiétais de plus en plus à l'idée que mes voisins puissent descendre dans leur puits pour y réparer quelque chose. Sean n'était pas le seul à le faire », a-t-elle expliqué en entrevue. Fin de citation. Même si la réglementation du ministère réserve aux puisassiers titulaires d'un permis le droit de travailler dans les puits d'eau, cela n'empêche pas les habitants des régions rurales d'y descendre pour les inspecter, ajoute Richel. Citation : Tous ceux qui vivent à la campagne vérifient leurs puits. C'est une pratique très, très courante, affirme-t-elle. À peine un mois après la mort de Sean, le ministère a ordonné à Sommer de mettre hors service les puits d'eau de sa propriété. La famille disposait de moins de 4 mois pour engager un entrepreneur et faire effectuer les travaux. Un délai aussi serré était épouvantable à gérer, en plein deuil, fait valoir Richel. Citation : On entend parler aux nouvelles de la moindre petite chose. Mais bien qu'un événement aussi catastrophique ait touché un entrepreneur de la région, un père, un fils et un mari, on a l'impression que l'histoire a été oubliée ou cachée et que personne n'en a parlé. Je ne voudrais surtout pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. Fin de citation. Et c'est de Mme Schumer. Citation : Après tout ce qui est arrivé à ma famille, il fallait en plus que je me replonge dans tout ce qui concernait les puits, raconte Sommer. Elle a accepté de faire réaliser les travaux, mais a tenté sans succès de conclure avec le ministère une entente par laquelle, en échange de sa collaboration, le gouvernement se serait engagé à avertir directement les voisins des dangers que présentaient les puits de la région. Citation : On entend parler aux nouvelles de la moindre petite chose. Mais bien qu'un événement aussi catastrophique ait touché un entrepreneur de la région, un père, un fils et un mari, on a l'impression que l'histoire a été oubliée ou cachée et que personne n'en a parlé, déplore Sommer. Je ne voudrais surtout pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. Exaspérées, les deux belles-sœurs ont ensuite engagé à leurs frais un consultant en sécurité et lancé une campagne de sensibilisation afin de contraindre les autorités à diffuser l'information. Leurs efforts ont mené à l'ajout de nouvelles mises en garde sur la présence de gaz dans les puits sur le site web du Bureau de la santé publique locale. Plus d'un an après la mort de Sean, le ministère a également transmis aux puisassiers un avis général sur les gaz pouvant s'accumuler dans les puits. Citation : À la suite d'un incident survenu dans le sud de l'Ontario. Fin de citation. Et encore aujourd'hui, elles n'ont toutefois vu aucun signe que le ministère des Richesses naturelles ou celui de l'Environnement a communiqué directement avec les résidents de la région. Citation : Je n'ai vu absolument rien qui indique qu'on a dit aux propriétaires de se munir d'un détecteur de gaz s'ils descendent dans un puits, affirme Richel. Est-ce que tous ces puits de gaz ont été abandonnés, c'est-à-dire scellés de façon permanente? C'est ce qu'il faut faire, soutient Sommer. Il fuit dans nos puits d'eau. Fin de citation. La tâche est titanesque. La Bibliothèque ontarienne des ressources pétrolières, gazières et salines contient l'emplacement et l'historique de plus de 27 000 puits. Selon un rapport publié en 2022 par la vérificatrice générale de l'Ontario, plus de 9 000 d'entre eux n'ont jamais été obturés ou l'ont été avant 1970 au moyen de matériaux désuets qui se détériorent et laisse échapper du gaz dans le sous-sol. Moins d'un puits sur 5 a été inspecté depuis 2006. La province affirme néanmoins progresser. L'Ontario a obturé 471 puits au coût de 46 millions de dollars, indique un récent communiqué du ministère des Richesses naturelles, pour une moyenne de près de 100 000 dollars par puits. Le ministère consacrera 6 millions de dollars à ce programme en 2026. Si les coûts antérieurs se maintiennent, la province pourra donc obturer environ 61 ou 62 des 9000 puits problématiques recensés par la vérificatrice générale. Cette moyenne peut toutefois être trompeuse, prévient Maurice Dussault, professeur émérite de génie géologique à l'Université de Waterloo. Certains puits s'avèrent extrêmement difficiles à colmater et, citation, « absorbent l'argent comme une éponge absorbe l'eau », fin de citation, explique-t-il au Canada National Observer. Non seulement la province doit-elle accélérer le colmatage des puits, mais le gouvernement doit aussi cesser d'en faire porter la responsabilité aux propriétaires fonciers, soutiennent des critiques de gauche comme de droite. Les propriétaires qui découvrent un ancien puits sur leur terrain peuvent demander une aide financière à la province. Ils demeurent toutefois responsables de son obturation, et ce, sans garantie que leur demande de financement sera acceptée. Cette situation doit changer, estime Bobby Ann Brady, député provincial de la région. Citation, cette ancienne députée du gouvernement progressiste conservateur qui a rompu avec le parti de Doug Ford souligne que de nombreuses personnes achètent dans sa circonscription des terrains déjà criblés de puits de gaz. La province, citation, doit faire preuve de leadership dans ce dossier et montrer l'exemple, affirme-t-elle, fin de citation. Sandy Shaw, députée néo-démocrate d'une circonscription voisine, partage son avis. Citation. L'ancienne loi s'appliquait lorsque les puits de gaz étaient en activité, ellipse, et qu'ils procuraient des emplois et des profits à la collectivité. Il faut la modifier, parce que des gens se retrouvent pris avec des propriétés et doivent assumer un risque qui n'aurait jamais dû leur incomber. Le gouvernement, lui, est prêt à leur tourner le dos en disant « Désolé, c'est votre responsabilité. Nous, nous en lavons les mains. » Sommer se souvient du jour où son mari est mort. Camionnette transportant les pompiers volontaires qui tentaient de sortir Sean du puits, l'hélicoptère d'urgence qui l'a conduit à l'hôpital, les discussions sur le manque d'oxygène et les possibles lésions cérébrales, puis les condoléances reçues le lendemain. Elle se demande encore pourquoi le gouvernement ontarien dépense des millions de dollars pour fournir aux premiers répondants l'équipement nécessaire afin d'intervenir près des puits dangereux, mais ne semble rien consacrer à la tenue d'une campagne d'information coordonnée auprès des populations rurales de cette région de la province. Citation, « Pourquoi personne n'est au courant? » demande-t-elle. L'information n'a pas circulé. Fin de ce texte de Canada National Observer, signé Colin Graff, titré « Des milliers de puits de gaz oubliés font des victimes dans le sud-ouest de l'Ontario. » Texte publié dans Le Devoir du 28 juillet 2026.